Ça va le monde.
Ça va le monde. RFI vous invite à un cycle de lecture organisé en coproduction avec le Festival d'Avignon, la compagnie Utopia et soutenue par la SACD. Pascal Paradou.
Il y a du monde dans Tram 83, Lucien, Christelle, l'écrivain, l'éditeur, Requiem, des clients, des filles de mauvaise vie, ambiance de nuit, lumière crue, tout Lubumbashi se retrouve ici dans ce célèbre bar inventé par Fiston Mwanza Mujila. Un texte tout en images, comme un travelling cinématographique adapté du roman éponyme par Julie Kretzmar et présenté ici au Festival d'Avignon dans le cadre des lectures de RFI. Sur scène, Christophe Grégoire, Mwanda Dadi Kamono et Astrid Baya à la guitare, Aurélien Arnoux et bien sûr les cigales et les cloches qui s'invitent à ces lectures.
Au commencement était la pierre, et la pierre provoqua la possession, et la possession la ruée, et dans la ruée débarquèrent des hommes aux multiples visages qui construisirent dans le roc des chemins de fer, fabriquèrent une vie de vin de palme, inventèrent un système entre mine et marchandises.
Gare du Nord, vendredi, vers les 7-9 heures du soir. Patience, mon ami. Toi-même, tu sais que nos trains n'ont plus la notion du temps. La gare du Nord se dévergondait. Elle se résumait à une construction métallique inachevée, démolie par des obus, des rails et des locomotives qui ramenaient à la mémoire la ligne de chemin de fer construite par Stanley, des champs de manioc, des hôtels à bas prix, des gargotes, des bordels, des églises de réveil, des boulangeries et des bruits, orchestrés par des hommes, toutes générations et nationalités confondues. C'était le seul endroit du globe où l'on pouvait se pendre, déféquer, blasphémer, s'amouracher et dérober sans se soucier du moindre regard. D'ailleurs, un air de complicité y flottait en permanence. Les chacals ne mangent pas les chacals. Ils sautent sur les dindons et les perdrix et les dévorent. La légende qui nous trompe souvent ressassait que tous les projets de maquis et de guerre de libération avaient germé à la gare, entre deux locomotives. La même légende, comme si cela ne suffisait pas, prétendait que la construction du chemin de fer avait fait de nombreux morts, imputés aux maladies tropicales, aux bavures techniques, aux mauvaises conditions de travail imposées par l'administration coloniale. Bref, on connaît le scénario. Gare du Nord, vendredi, vers les 7-9 heures. Il était là depuis bientôt 3 heures, se heurtant aux passants en attendant l'arrivée du train. Requiem avait plus important à faire qu'attendre cet individu qui, au fil des ans, avait perdu toute importance à ses yeux. Depuis qu'il avait tourné le dos au marxisme, Requiem traitait de « communiste du dimanche » et d'idéologues de bidonville, tous ceux qui le privaient de sa liberté de penser et d'agir. Il devait livrer une marchandise, sa vie en dépendait, mais le train qui venait avec ce salaud de Lucien se faisait attendre. Lucien avait pris soin d'insister sur la notion de temps et sur ces trains qui battaient tous les records. Déraillement, retard, promiscuité.
Monsieur désire une compagnie.
Une fille, habillée comme on s'habille un vendredi soir dans une gare dont la construction métallique est inachevée, s'arrêta à sa hauteur. Un instant pour jauger la marchandise. Un bruit sourd, un vacarme qui signalait l'entrée de la bête.
Vous avez l'heure, citoyen ?
Il avait suffisamment analysé la gamine, l'avait même imaginé sur son grabat, malgré la pénombre. Il l'attira contre son corps, demanda son nom.
« Appelle-moi Requiem. »
Promena ses doigts sur les mamelles de la jeune créature. Tes cuisses, la prestance d'une bouteille de vodka. Il fallait une consigne, indiquer un lieu où il pourrait causer à tête reposée. La jeune femme insistant, il soupira, se mordit les lèvres. Rendez-vous au tram 83. Malédiction est que les trains qui arrivaient à ces heures de la nuit transportaient toute la racaille qui ne pouvait pas, qu'il s'agisse d'étudiants ou d'ouvriers des mines, regagner la bourgade par ses propres moyens. Le chemin de fer, pour des raisons jusque-là inconnues, coupait la seule université du coin en deux. Les cours de l'après-midi étaient perturbés, non par le chahut de la machine, mais par des étudiants qui vidaient les lieux avec leurs clics et leurs claques. Car rater ces trains-là, c'est pisser dans sa petite culotte, cher intellectuel. Les quelques professeurs qui squattaient dans les faubourgs de la ville-pays larguaient les amarres au même moment que leurs disciples. Ça ne s'apprend pas, l'instinct de survie. Ça vient de soi. Sinon, ils auraient déjà instauré un cours d'instinct dans les universités. Les trains passait sans s'arrêter, quitte, pour les étudiants les plus rapides, à s'agripper à la ferraille, à la guerre comme à la guerre. Aux caprices de ces étudiants qui se croyaient tout permis, s'opposait la bestialité des creuseurs qui partaient et revenaient par les mêmes engins. Les premiers reprochaient aux seconds de brader leur dignité aux exploitants et négociants miniers d'origine multiple. Les seconds s'en moquaient, démontrant avec leur poisse et leur corps raidi à force de radioactivité qu'on n'a pas à passer sur les bancs de l'école pour baiser et trinquer par la suite avec une bière bien fraîche. D'ailleurs, certains étudiants butinaient dans les mines pour régler leurs dettes. Requiem se mit à chercher l'aiguille dans la botte de foin. Fatigué, et par les bruits et par l'alcool qu'il venait d'ingurgiter, Requiem s'appuya contre un pilier. Je suis une femme libre, mais je cherche encore l'homme de ma vie.
Il pensait déjà au sein siliconé de la fille qui l'attendait au tram 83. Après ces longues années de séparation, comment larguer Lucien et disparaître avec la gonzesse dans les méandres de la nuit ? Les creuseurs des mines et les étudiants continuaient à se tester. Ils empruntaient le même itinéraire pour nulle part, à l'apothéose des menaces qu'ils proféraient. Requiem sent comme une présence. Il lève les sourcils. Lucien, en chair et en squelette. Requiem s'avance. Il se rend compte que son ami a perdu tout son poids. Qu'une époque passe, qu'une civilisation trépigne. Lucien, tout de noir vêtu, jouant de l'harmonie d'une écharpe rouge et des paperasses plein les aisselles. Un sac en simili-cuir usé jusqu'à la corde, en bandoulière. Les cheveux ébouriffés, le visage froissé, le regard froid, la voix rouillée. Ils s'étreignent sans trop d'enthousiasme. Les salauds. Ne me dis pas qu'ils t'ont torpillé la cervelle. Et toi, quelle nouvelle ? Répondit Lucien. Comment tu t'en es tiré ? Je t'expliquerai, les salauds, les salauds. Tu m'emmènes ?
Oui, répondit Requiem, sûrement hanté par la fille habillée comme on s'habille un vendredi soir dans une gare dont la construction métallique est inachevée, où les rebelles dissidents en mal de sexe, les étudiants et les creuseurs empruntent le même itinéraire. Je suis une fille à fleurs de peau. Deux grosses larmes descendirent sur le visage de l'homme qui avait débarqué avec le train dans cette gare. Ils traversèrent en silence le hall et les autres morceaux de la gare, investis par quelques filles mères en laisse, des professeurs bazardant des notes de cours, des intellectuels puant le poisson salé, des artistes cubains qui exécutaient salsa, flamenco et merengue à l'occasion de rien.
J'ai envie de te masser en guise de préliminaire, puis te sucer lentement, sucer tout ton corps, sucer à finir la salive de ma bouche.
Dans les ténèbres de l'histoire. Nous étions des vaches à lait d'un système de pensée qui tirait profit de notre jeune âge, qui nous écrasait complètement. Lucien, nous avions un idéal, l'innocence. L'innocence. Tu veux bien dire l'innocence. L'innocence est une lâcheté. Il faut vivre avec son époque, mon frère. Tu n'as pas changé d'un seul cheveu. Ici, on ne vieillit pas. On existe, tout simplement. Ici, le Nouveau-Mexique. Chacun pour soi, la merde pour tous. Requiem pour un nouveau monde. Alias, fils du pays. Alias, l'homme et son destin. Alias, Al Pacino. Alias, le mythe de Sisyphe. Alias, le fondateur. Alias, le fondé de pouvoir, le Rwandinga Kuvu, son Altesse Sérénissime, ancien régime, le seigneur des anneaux, maréchal, guide suprême, alias, patriarche, l'homme intelligent, alias, négritude, Zanzibar, Sibérie, Bertolt Brecht, alias, demi-dieu, alias, le négus, marché noir, Haïlé Selassie, Makoko Dembe, alias, Saigon, alias, l'héritier légitime et direct de Sundiata Keïta, alias Balater, Nouveau-Mexique, décalage horaire, espace Schengen, G7, alias qui a bu, boira, alias le parchemin, alias longue histoire de l'empereur Mao Tse-Tung, alias les oiseaux se cachent pour mourir, alias la bourse de Tokyo, Requiem, l'homme aux semelles de ragne.
Ces messieurs désirent une compagnie. À peine 16 ans, ficelés dans deux petits bouts de corset, deux gamines les accueillirent avec un sourire inextricable. C'était une gigantesque tâche que d'identifier toutes les femmes qui pénétraient dans le tram 83. Elles luttaient avec acharnement contre la vieillesse. Elles se maquillaient du matin au soir, portaient de faux seins, utilisait les manières fortes d'aguicher les clients et portait des noms à consonance étrangère. Marilyn Monroe, Sylvie Vartan, Romy Schneider, Bessie Smith, Marlène Dietrich ou Simone de Beauvoir. Question de marquer leur présence au monde.
Ces messieurs désirent une compagnie.
Requiem s'arrêta sur celle aux cheveux savane boisée.
Tes seins étanchent ma soif.
Monsieur ?
Une séance de massage revient à combien ?
La fille énonça un chiffre.
Tu sais que la bourse de Tokyo est en chute libre.
Requiem prit le numéro de téléphone de la fille. Ils se dirigèrent vers le comptoir. Rien. Rien de spécial dans ce tram 83. Noir de part et d'autre. On dirait la grotte de Lascaux. Des hommes, des femmes, des enfants avec des verres et des clopes. Au fond, un groupe musical qui massacrait et sans gêne un morceau de Coltrane. Sans doute Summertime. Deux filles au sein grosses tomates les suivirent aussitôt. Ça s'appelle filature.
Vous avez l'heure?
C'était faire preuve de courage que d'essayer un dialogue dans ce tohu-bohu créé par une musique défroquée. Dans les labyrinthes de la ville-pays, on n'écoute pas le jazz pour renifler l'odeur des cannes à sucre ou retrouver la conscience nègre ou savourer la beauté des notes. On écoute le jazz parce qu'il faut écouter du jazz quand on dort sur des billets de banque, qu'on livre quotidiennement sa marchandise, qu'on s'occupe d'une usine d'extraction, qu'on est cousin du général dissident, qu'on entretient une petite maîtresse qui vous cloue au lit dans des valpes impossibles. Le jazz est un signe de noblesse. C'est la musique des riches et des nouveaux riches, de ceux qui construisent ce beau monde cassé. Ces gens-là n'écoutent pas la rumba qu'ils trouvent sale, primitive. Entre la rumba et le jazz, c'est l'océan, disent-ils. On n'écoute pas le jazz comme on se plongerait dans une rumba à la sauce zaïroise. Le jazz n'est plus l'histoire des nègres. Il n'y a que les touristes et ceux qui apprivoisent la monnaie pour connaître le soubassement de cette musique. C'est la seule identification à une certaine bourgeoisie. La bourgeoisie de la dernière heure. Lorsque les musiciens jazz, tout le tram 83 quitte sa maladie du sommeil, au moindre saxophone, le grand déguisement, les creuseurs et les étudiants épousent les manières des touristes. Ils regardent, sourient, prennent l'allure altière des samouraïs, la gestuelle d'un maharaja, l'assurance du Dalai Lama. Les poulettes, les serveuses et les aides-serveuses ne se laissent pas subjuguer. Sourire de la reine d'Angleterre, elle mime des impératrices imaginaires. Le jazz est le seul levier dont se sert toute la racaille du tram 83 pour changer de classe sociale. Comment changerait de métro?
Vous avez l'heure?
L'horloge de ton père.
On fumait à boulet rouge. On s'identifiait au jazz. On se tripotait dans le noir.
Règle numéro 1. Ne te laisse jamais intimider par une serveuse frappée d'hystérie. Nous ne sommes pas à Moscou. Ici, le pourboire est obligatoire. Mais nous qui connaissons le nouveau monde, nous faisons exception. Nous anéantissons tout pourboire exigé avec force. Elles n'ont qu'à porter plainte, les serveuses. Les mines et leurs touristes me connaissent. Ils me connaissent, les touristes et les mines. Le pourboire est un archaïsme. Je donne quand je veux.
Gigolo. Pourboire.
Nous sommes partis pour 4 heures de balade.
Pourquoi tu vas aux toilettes tout le temps? Tu risques de pisser ton cerveau.
On n'est jamais à l'abri d'un quelconque empoisonnement. Lucien sortit son calepin, écrivit. Ceci n'est pas un bar. Où iront-ils se défouler lorsqu'il n'y aura plus de femmes à porter de leurs fantasmes? Où iront-ils déposer leurs semences? Où iront-ils noyer leurs déboires lorsqu'il n'y aura plus où se saouler la gueule? Où iront-ils se déhancher lorsqu'il n'y aura plus de salsa? La salsa et le jazz ne sont pas éternels. Que feront-ils pour s'identifier aux touristes azerbaïdjanais?
Lucien, jadis loquace, trébuchait sur ces mots, écrivait « Le tram 83 et ses filles aux seins élastiques ». décrivait la puanteur des creuseurs en mal de sexe par derrière, écrivait la folie des suicidaires, écrivait l'angoisse des touristes,
écrivait les jazzmen nigérians originaires de Gwamocho. Lucien s'activait désespérément à dialoguer. Tu fais quoi à tes heures perdues? Tu as une petite amie?
Peut-être.
Le temps passe vite.
J'aime l'argent.
Tu travailles durement à ce que je vois.
Tu n'aimes pas ce jazz-là.
Je suis en train de gratter un texte.
Le nouveau monde.
Je suis content de te retrouver.
Au fil des bières, il s'arrimait à une évidence, les ressacs leur avaient frayé le passage, ils ne pouvaient plus chanter dans la même chorale. Ils n'étaient que deux espèces de vies égarées dans une ville devenue pays par la force des Kalachnikovs.
Tu me saoules.
Pour boire. Vous avez l'heure? Tu fais quoi à tes heures perdues? La danse du cheval. Je pourrais même te sucer. Sucer, c'est ma passion.
Le nouveau monde. Le Far West. Nous sommes de la civilisation du chemin de fer.
Lucien inspectait les rondeurs qui patrouillaient dans le secteur. La stéatopygie demeurait l'unique canon de beauté. Toutes les poulettes ne juraient que par les fesses brésiliennes. Il fallait posséder ces fesses-là ou rien. Elle prenait désespérément un breuvage à base de soja, des pilules et la nourriture destinée aux porcs afin d'élargir le périmètre de leur croupe. Les effets laissés à désirer. Des fesses en forme d'ananas, d'avocat, de ballon de baudruche ou balle de baseball. Une fesse exagérément plus prononcée qu'une autre. Des fesses obliques, carrées, rectangulaires. Des fesses qui pédalent d'elles-mêmes.
Dépassé par les événements, Lucien gardait encore une lueur d'espoir et même de beauté. Un télo mal rasé. Les sondages démontrent que 80% des filles s'éprennent de pareils individus. Ça fait exotique, africain, contemporain, Nouveau-Mexique. Il avait été averti comme en parabole déjà à la gare du Nord. Requiem possédait quelque chose de prophétique. La ville-pays est ainsi faite. Les filles sont libres, démocratiques et indépendantes. La misère achève la honte et vos signes de politesse. Ici, c'est souvent la fille, qu'elle soit canton ou le contraire, qui prend les initiatives. Elle t'insère dans sa stratégie. Elle te téléphone, te re-téléphone. Elle s'accroche à toi comme une sangsue. Elle te colle à la peau parce que tu paies à boire, à manger. Et puis, après le lit, tu lui donnes un peu de sous pour le travail accompli, transport, ainsi de suite. C'est la fille qui vous indique la marche à suivre lorsque vous baisez. Elle contrôle le bazar de la Genèse à l'épître aux Corinthiens. Mets ta jambe comme ça, pose ta main droite sur mon ventre, fais comme si j'étais ton cheval. Caresse ma carrosserie, recule, avance doucement, stop. Commence maintenant à me caresser les cheveux. Mon nom, Lucien.
Tu habites chez le premier homme?
Qui c'est le premier homme?
Requiem.
Depuis hier.
Tu sais que tu as une manière bien à toi de concevoir la vie.
On se voit demain?
Tu m'aimes?
peut-être.
Lucien pénétra vers les 3 heures du matin dans le tram 83. Noir.
Vous avez l'heure ?
Un monsieur, genre proviseur, la cinquantaine révolue, avait déjà pris place, seul, avec des cigarettes et une bonne rangée de bouteilles, signe précurseur d'un alcoolisme invétéré. Un orchestre dépêché d'Acapulco exécutait un opus de Marvin Gaye, revu et corrigé. Une jeune tigresse presque nue s'avançait. Stratégie pour posséder le public déjà acquis. Euphorie et... Oui, il parvenait sans le moindre effort à électriser la salle.
Bonsoir, messieurs, je peux m'asseoir ?
Comme tu veux. D'où viens-tu ? Lucien se souvint de son ami, Porte de Clignancourt, qui se torture à contacter les théâtres parisiens et lui, là, en train d'assister à un concert bâclé.
J'arrive de l'arrière-pays.
Le monsieur redoubla de curiosité, croisa les doigts comme pour invoquer les divinités supérieures. Comment ça ?
Je suis de passage. Je ne sais pas si je vais prolonger mon séjour.
Je vois bien que la vie t'est douce ici.
Oui, je me plais bien.
L'image de son copain, Porte de Clignancourt, traversa la cervelle de Lucien une deuxième fois. Moi, les francophonies en Limousin, le tarmac et autres théâtres parisiens, les contacts au Brésil. Et toi, tu te plais bien avec ce type qui te bourre de questions ?
Vous avez l'heure ?
Un orchestre venu d'Amazonie, composé d'Indiens, s'apprêta à monter sur scène. L'interrogatoire se poursuivait. Une vie de couple, divorcée. Tu es dans quoi ?
Je suis titulaire d'un diplôme de licence en histoire.
Chers amis, vous ne me croirez pas, l'homme que vous voyez est un historien. Hilarité générale. T'avais rien à foutre ou quoi ? Et tu gagnes ta vie avec l'histoire. Je pouvais pas m'imaginer qu'il y avait encore des têtes pensantes dans la ville-pays. Ce pays est par terre. Tout est à reconstruire, les routes, les écoles, les hôpitaux, la gare, et même l'homme. Nous avons besoin de médecins, de mécaniciens, de charpentiers, d'éboueurs. Surtout pas des rêveurs.
On ne peut rien contre une passion. Mais je ne suis pas qu'historien, je suis aussi écrivain. Je suis dans l'écriture, je suis écrivain.
Jeune homme, tu as devant toi Ferdinand Malinjour, directeur des éditions Train de Bonheur. Lucien reste muet. Il sent comme un soulagement. Depuis combien de temps dans l'écriture ?
Une dizaine d'années.
Et vous écrivez sur quoi ? Quel genre ? Un texte en chantier ?
Un théâtre-conte qui traite de ce pays dans une perspective historique. L'Afrique des possibles, le Mumba, la chute d'un ange ou les années du pilon mortier. Il y a de fortes possibilités que ce texte soit en lecture en Europe, avec comme personnages Che Guevara, Sékou Touré, Gandhi, Abraham Lincoln, Lumumba, Martin Luther King, Ceausescu, sans oublier le général dissident.
Je ne suis pas communiste. J'accroche pas. Je sais que Lumumba est une figure emblématique de l'indépendance du Congo Zaïre, mais j'estime que le mieux est de camper à la place de Lumumba nos propres héros. Un maquisard qui a payé le prix pour cette ville, au lieu de s'embrigader dans l'histoire du Congo Zaïre. Et puis le Congo congolais laisse cette partie d'histoire aux dramaturges de ce pays. Ici, comme à l'arrière-pays, il y a sûrement des hommes qui ont marqué leur temps. Laisse ces grands hommes reposer dans la dignité. Non, pense à des textes qui parlent chemin de fer, mine ou je ne sais quoi.
Je suis historien de formation. Je pense, à moins de me tromper, que la littérature mérite une place de choix dans la mise en forme de l'histoire. C'est par le chemin de la littérature que je peux rétablir la vérité. Je me propose de reconstituer la mémoire d'un pays n'existant que sur papier.
Ce discours, je l'ai déjà entendu. On en a déjà assez de la misère, la pauvreté, de la syphilis et de la violence dans la littérature africaine. Le personnage principal dans le roman africain est toujours célibataire, névrosé, pervers, dépressif, sans domicile, et traîne toutes les dettes du monde. Mais ici, on vit, on baise, on est heureux. Faut que ça baise aussi dans la littérature africaine. Bon, ton théâtre conte m'intéresse. Je vais organiser une lecture-spectacle. Les éditions Train de Bonheur ont l'honneur de vous présenter, tu l'appelles comment déjà ton théâtre conte?
L'Afrique des possibles, Lumumba, la chute d'un ange ou les années du pilon mortier.
Les éditions Train de Bonheur ont l'honneur de vous présenter Lucien, un auteur contemporain, dont l'œuvre apprend à franchir les murs, les rails, les guerres et les océans, et qu'elles publieront un de ces quatre matins. Je suis suisse, de père et de mère. De toute façon, tôt ou tard, tu l'aurais su. Hein. Je préfère te le dire avant une quelconque collaboration. C'est pour éviter amalgame. Tous ces blancs que tu vois ici ne sont pas forcément suisses. Certains sont même plus africains que vous autres. Enfin, je veux dire, ils adorent l'Afrique. L'éditeur questionnait. L'éditeur racontait, l'éditeur expliquait. Lucien, qui se voyait déjà sur les rayons d'une bibliothèque, ne sirotait même pas sa bière. Il sortait son calepin, écrivait ses bêtises. Sa fatigue, ses nausées, ses soucis avaient disparu. L'éditeur incarnait l'espoir, le début de quelque chose. Si le bonheur avait un nom, il s'appellerait Tram 83. Qu'est-ce que tu me veux, Requiem ?
Arrête de manger dans mon poulailler.
Tu devrais consulter un marabout.
Il paraît que tu proposes de publier les paperasses de Lucien.
En quoi ça te concerne ?
Je te l'interdis.
Négus, va dormir.
Tous se rappellent de l'irruption de l'éditeur dans notre monde. Un samedi soir, le tram bougeait comme à l'accoutumée. Un jeune homme sale, maigre, mine de chien esselé, tout juste chargé d'une valise, pénétra dans le tram. On se rendit directement à l'évidence que c'était un novice. Il avait d'abord erré avant d'échouer au tram 83. Ferdinand Malingeau, comme son nom l'indique, faisait partie de ces spécimens rares. Touriste à but non lucratif au départ, il fut emporté par l'ambiance du tram 83 et de ses filles de bar. Dans une ville érigée à l'aune de la débrouillardise, de la pierre et de la Kalachnikov, il devient difficile de connaître l'identité exacte des touristes. De quel pays arrive-t-il réellement? Pourquoi débarque-t-il en Afrique? Il avait tout plaqué pour venir manger la terre de la ville-pays. Presque tous les touristes à but non lucratif en ont marre de la monotonie et arrivent avec l'espoir de vivre dans un monde, un continent non encore pollué par les excréments de la mondialisation. Il a vécu 3 mois sans excaver, ce qui est un vrai miracle. Il ne voulait pas profiter de l'Afrique négro-africaine. Sans les sous, la vie est exécrable au tram 83. Les canetons te boudent, les creuseurs te boudent. Les serveuses et les aides-serveuses te boudent. Les touristes chinois te boudent. Une solitude pestilentielle. C'est grâce à mes relations que le général dissident lui octroya l'autorisation d'excaver ainsi que la clé d'une mine délaissée au lendemain de la décolonisation. C'est grâce à moi qu'il peut ouvrir sa bouche. C'était un mort-vivant. Quand il est arrivé au tram, un revenant, un zombie. Mais ingrat comme il est, il me paie en monnaie de singe. Si j'escroque ce type, c'est parce que les minerais nous appartiennent. Ce sont nos minerais.
Toute la ville pays se réjouissait lorsque la terre avalait. Tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière.
La rencontre lecture Prophétie d'avant l'aube avait été fixée ce samedi vers les 11h du soir Le type chargé de sensibiliser sur les avantages de la littérature avait chargé un autre type qui avait chargé un autre type qui avait chargé un autre... Enfin, bref, une sensibilisation de pacotille. La soirée débute avec morosité. La nouvelle de l'éboulement d'une galerie souterraine dans une mine de diamants se répandait de bouche à oreille. 6 corps auraient été extraits des décombres. Tout le monde connaissait les creuseurs qui viennent d'être avalés par la terre. Tous les creuseurs, après leur journée qui démarre avec le chant du coq, l'Angélus ou la fatwa du minaret d'en face, se précipitent dans le train, atterrissent au tram, trinquent, aguichent les fimères, partent faire l'amour à quatre dans les installations mixtes, suent comme des porcs, insultent les aides serveuses, dansent la polka, paient à boire à tout le monde, rivalisent à la roulette russe, aboient les chansons que leur grand-père et arrière-grand-père entonnent lorsqu'ils piochent dans les mêmes mines, trinquent-ballant la pneumonie et autres maladies non encore répertoriées, se partagent des brochettes à base de chiens, s'en prennent aux musiciens et repartent, tels qu'ils ont débarqué, sales, nerveux, insolents, hilars et dédaigneux. Ils sèment le désordre, mais on les adore quand même. La tension monte toutes les 10 minutes. Les bouteilles se dépucellent par dizaines pour noyer la rage et le dégoût de vivre dans un monde pourri. L'éphémère se positionne pour bien voir les clients. Les étudiants abordent l'actualité à la lueur de Marx et d'Engels. Lucien, la peur au ventre. Ils ne sont pas là pour savourer ta poésie.
Ils ne pensent qu'à satisfaire leur ventre et leur bas-ventre. Les chiens aboient, les trains chargés de lingots d'or passent. Un matin, ils se réveilleront et ils se rendront compte que la ville-pays n'existe plus. Déjà, la ville-pays n'existe que de nom. Le ciel appartient aux divinités supérieures et la terre aux touristes et aux généraux dissidents excavant sans se fatiguer. Que feront-ils lorsqu'ils n'auront plus leur pays et leurs minerais qui croissent comme des champignons sauvages? Comment convaincre l'Assemblée de la nécessité de la littérature dans une boîte de nuit? Ils se rappellent la dernière fois sur scène.
Dégage, Lucien.
Arrière-pays, applaudissements, 17 mois d'emprisonnement, 2 ans d'interdiction professionnelle, atteinte à la sûreté de l'État, incitation méthodique et systématique à la révolte. Il s'accroche à ces mots. Il fixe ses yeux ailleurs. Il s'attache à un souvenir. On lui a dit, à l'université, si tu as du mal à te concentrer, imagine-toi sur un grabat avec une fille dotée d'une carrosserie énorme. Une fille bien plantureuse qui te supplie de lui enfoncer la bite fixe, fixe et fixe. Bon Dieu, cette idée! Et c'est peut-être de là que viendra ton salut. Il s'imagine avec une plantureuse sur le divan de Requiem.
Lucien résiste, élève la voix au-dessus de la mêlée. Les étudiants le transportent par les manches, le jettent dehors. On continue à le molester, à le trimballer sur les rails. On propose de le brûler vif. Sang, bave, larmes. Requiem rit aux larmes.
Je me demande ce que vous écrivez, vous autres, les écrivains. Règle numéro 74. C'est comme ça qu'on attrape les boulots. Tu renifles les annonces, tu téléphones et on t'embauche. Pas de pitié pour des scolopendres comme toi qui se tournent les pouces. Je déteste les saligots qui ne veulent pas trouver du travail. Il faut saisir les opportunités, le travail s'arrache. Ici, c'est un autre monde, le nouveau Mexique. Tu dors, on te dort. Faut savoir sortir de ses bottines. Il n'y a pas que votre littérature pour gagner son pain. Les statistiques démontrent noir sur blanc qu'aujourd'hui, les études ne servent qu'à t'enorgueillir. On ne trafique pas avec son destin. Il est écrit, enfanté dans les mines et les trains. Vous grouillerez tout le long de votre existence, dans les carrières, jusqu'à ce que s'accomplissent les prophéties. La pauvreté est héréditaire, comme le pouvoir, la bêtise ou les hémorroïdes. C'est même contagieux, une vie de locomotive. Et tu sais quoi? C'est vous, les intellectuels, qui avez flingué ce pays. Tu nous fatigues. Lucien, tu exagères. À quoi bon faire ton intellectuel partout si l'équation doit rester la même? Les routes qui mènent vers la vérité et l'honnêteté sont coupées par des inondations, crasse, croûte de chien, mensonges, délestage. Mais pourquoi tu t'entêtes à croire en un monde possible? Pourquoi tu t'efforces à réduire l'humanité aux rêves et citations que tu glanes sur tes paperasses? Ça s'appelle lâcheté. Peut-être même amnésie. Ou même le mélange des deux. Le monde est irrécupérable. La tragédie est déjà écrite en préface. Alors, préfaçons.
Christelle.
Malinjo.
Tu es beau.
Moi.
Tu es beau comme dans un film porno. Tu vis de quoi?
Je suis à la retraite.
Non, s'il te plaît, dis-moi ce que tu fais de tes journées.
Je suis dans les mines.
Quel beau métier.
Et madame?
Je suis encore mademoiselle. Pourquoi tu me fais vieillir? Qu'est-ce que tu perds si tu m'appelles mademoiselle?
Et mademoiselle?
Tu es beau.
Tu me l'as déjà dit.
Oui, je sais.
Je suis un peu vieux pour ton âge.
L'âge est un prétexte. Tu es comme le soleil. Tu es l'homme de ma vie.
Je n'espérais pas une aussi belle rencontre.
Je suis la reine de la nuit. Sans moi, le tram est une succursale de rêves broyés. Donne-moi l'argent d'abord.
Tiens, ma princesse.
Encore.
Tu aimes l'argent.
J'aime la vie.
Elle sait brûler les étapes de sa vie. Ou disons, elle consomme pleinement son adolescence. Son corps, une artillerie à vous sortir les babines.
Bonsoir, monsieur Malinjo.
Lucien, tu es là depuis quand?
Je ne sais pas. Moi aussi, j'étais emporté par le rythme. Il balbutiait. À dire vrai, il était ailleurs. Il se demandait, alors que l'éditeur était occupé par ses états d'âme, s'il était crédible d'engager le personnage de Lumumba à côté de Napoléon et de Christophe Colomb. Il se sentait coupable de trafiquer l'histoire. Jusqu'où va l'imaginaire d'un écrivain qui part de faits réels pour fabriquer un univers où se côtoient le faux et le vrai? De quel droit triche-t-on avec la mémoire? Quelle crédibilité à mettre au diapason ces personnages parfois éloignés les uns des autres? Le public allait rechigner sur son Tché qui n'avait que 5 répliques. Oui, non, révolution, le devoir, la lutte. Ou sur le silence bavard de son Benito Mussolini face à la verve quasi passionnelle du président Nicolae Ceausescu.
Tu as une sacrée plume. Un écrivain, ça se voit. Tes personnages occupent très bien les espaces, je les vois. Sur un plateau, peut-être même ici, au tram, là, sur l'estrade.
Et si je comprends bien, tu vas me publier.
Pas si vite, Lucien. Je veux que tu reprennes le texte à zéro. J'ai besoin d'un texte à 10 personnages maximum. Réduis-les à 10.
Messieurs.
Et je publie ce petit bijou.
Besoin d'une compagnie pour vous faire oublier vos femmes qui manquent d'initiative et de créativité?
Au tram 83, impossible de converser sans être interrompu. Avec la crise et les affrontements, les cantons sont devenus plus agressifs, exigeants. Admettons, je l'accepte ce texte avec les 10 personnages. Ne te rends-tu pas compte qu'il vacille entre les lignes? Bon, écoute, mon vieux, tes personnages n'ont pas l'air de se tenir sur scène. Ils sont peu crédibles, en fait. Ils ont honte d'exister. Ils nous fuient. Je dis pas qu'il n'y a pas de texte. Bon, écoute, Lucien.
Monsieur l'éditeur, l'histoire se passe dans une gare. La pièce est divisée en quais. Il y a 10 quais, donc 10 tableaux. 10 personnages qui ne se connaissent pas attendent un seul individu.
Ton texte empestera les rails et l'histoire de la première mine. On en a marre de ces balivernes. Nous savons tout sur les trains. Je te propose un marché. Un autre marché.
Tu veux dire ?
L'Afrique n'intéresse pas grand monde d'intellectuels. Disons, elle n'est plus exotique comme il y a 400 ans. Je te propose de me revenir avec ce même texte, mais que l'action se déroule en Colombie. Tu vois ce que je veux dire ? Avec les FARC, la jungle, que l'histoire se passe dans la jungle. Imagine, des scènes de partouze, un univers burlesque et réaliste en même temps. Le juste milieu dans un contexte purement colombien.
Du rhum.
Bon, écoute Lucien, s'il te reste un peu de temps, accouche aussi d'un recueil de poèmes sur la Mauritanie. C'est publiable. La Mauritanie, l'imaginaire mauritanien.
Emmène-moi à Bratislava et fais de moi la reine de tes rêves.
Il se courba, écrivit. Les filles sont comme les mines, qui sont comme les chemins de fer, qui sont comme les creuseurs, qui sont comme les étudiants, et leurs grèves sont longévités, chronométrées, qui sont comme leur passé sans cravate, une espèce en voie d'extinction. Mais j'admire le regard avec lequel ils conçoivent la vie et la mort. Il est des villes qui n'ont pas besoin de littérature. Elles sont littérature. Elles défilent poitrine bombée, la tête sur les épaules. Elles sont fières et s'assument en dépit des sacs poubelles qu'elles promènent. La ville, pays vibré de littérature. Elle s'écrivait avec ses gigolos, ses canetons, ses creuseurs, ses bordels 4 étoiles. Ces rebelles dissidents prêts à vous séquestrer, ces prospecteurs, ces semi-touristes.
Des vers libres sur la Mauritanie.
Du rhum.
C'est pendant la nuit que les géants de ce monde fabriquent nos déboires avec des ardeurs de boulanger autodidacte. Nous sommes chaleureuses, inventives, flexibles avec nos chairs qui vous inventent des bonheurs d'autres âges et, en cette matière, vos femmes ne nous arrivent même pas à la cheville. Elles sont trop classiques. Ne savent pas faire danser la hanche, ne savent plus bouger de la jambe gauche et passent la nuit à vous demander de l'argent de poche. Les nuits sont un bonheur pour ceux qui savent en profiter. Les vraies nuits sont longues et populaires. Les vraies nuits sont toujours événementielles. Les vraies nuits n'échappent pas à la corruption et autres coups bas. Les vraies nuits puent la névralgie, les crachats et traumatismes de ceux qui construisent ce beau monde cassé.
Tram 83 de Faustin Manza Mujila, adapté et dirigé par Julie Kretzmar avec Astrid Baya, Christophe Grégoire, Mohanda Dadikamono et Aurélien Arnoux à la guitare. Le texte est édité chez Métellier et c'était une proposition du Festival des Francophonies en Limousin où le spectacle sera créé au mois de septembre. Ça va le monde, présenté par Pascal Paradou, réalisation Fabien Mugneret et Mathieu Salabert, un cycle de lecture en coproduction avec le Festival d'Avignon et la compagnie Utopia et le soutien de la SACD, à écouter et réécouter sur le site rfi.fr et sur l'appli RFI Pure Radio. À la semaine prochaine.